Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, Jean Monnet a reçu en 1976 le titre de citoyen d'honneur de l'Europe en reconnaissance de son rôle historique dans la construction européenne. Mais quel est donc l'itinéraire de celui que De Gaulle a surnommé l'inspirateur de l'Europe ?
Jean Monnet est né le 9 novembre 1888 à Cognac, donc en Charente. Il est le fils d'un producteur et négociant de spiritueux. Durant son enfance, à la table familiale, il assiste aux conversations entre son père et les clients étrangers. Jean Monnet interrompt ses études à 16 ans, avant le baccalauréat, pour travailler dans l'entreprise paternelle. Il devient le commis voyageur du Cognac familial, entre guillemets, à l'étranger et principalement dans le monde anglo-saxon. De 1904 à 1914, il séjourne successivement à Londres, puis au Canada et aux États-Unis. Il multiplie les relations d'affaires, il acquiert une maîtrise parfaite de l'anglais et il développe un esprit pragmatique. En 1914, la guerre interrompt ses activités de négociant. Mobilisé, Jean Monnet est réformé pour raison de santé. Arguant de sa connaissance du monde anglo-saxon et du commerce international, il propose ses services au gouvernement français qui, en 1916, sous le statut de haut fonctionnaire interallié, en fait le responsable de la coordination des ressources alliées, munitions, vivres, matières premières, et ce jusqu'à la fin de la guerre. En 1919, il travaille à la création de la Société des Nations, en devient le secrétaire général adjoint en 1920. À ce titre, il effectue des missions en Europe orientale et supervise la reconstruction allemande et le redressement des comptes de l'Autriche. Le négociant s'est mué en négociateur international pour la paix.
Et c'est à ce moment que Jean Monnet devient européen ?
Ah, détrompez-vous, Yann. En 1923, Jean Monnet démissionne de la SDN, Société des Nations, donc. Son père vient de décéder. Il décide de reprendre l'entreprise familiale en grande difficulté, en raison notamment de la prohibition décrétée aux États-Unis. Après avoir redressé la situation, en 1926, il quitte Cognac pour Paris, où il devient banquier d'affaires. Fort de son expérience acquise à la SDN, il travaille aussi à des missions de stabilisation monétaire en Pologne et en Roumanie. En 1929, il part aux États-Unis, mais la crise économique contrarie quelque peu ses projets au sein d'une banque californienne. Il s'installe en Chine, où, à la demande des autorités chinoises, il crée un consortium dans le but d'attirer des investissements étrangers dans le pays, tout en poursuivant ses activités d'homme d'affaires. Il quitte la Chine en 1936, mais continue de gérer à distance les contrats.
Alors, les affaires, la Chine, le monde, le terrain de jeu de Monnet est bien peu européen.
En effet, mais le climat européen qui s'assombrit le ramène sur la scène internationale et européenne. Rentré en France en 1938, il offre ses services au gouvernement français qui lui confie la mission de coordonner les efforts d'armement franco-anglais. En décembre 1939, depuis Londres, il préside le comité de coordination franco-britannique. Face à la débâcle, Monnet conçoit le projet d'union franco-britannique qu'il propose à Churchill, qui le fait adopter le 16 juin par le Parlement britannique. Mais le rejet par le gouvernement français, en dépit des efforts de De Gaulle et l'arrivée de Pétain au pouvoir, ruine la démarche de Monnet. Convaincu, comme De Gaulle, que la guerre n'est pas perdue, il obtient de Churchill le droit de continuer la lutte en participant à l'organisation du ravitaillement anglais par les États-Unis. Auprès de Roosevelt, dont il devient un conseiller écouté, Monnet travaille à organiser le Victory Programme qui va faire des États-Unis l'arsenal des démocraties. À partir de 1943, après la libération de l'Afrique du Nord, la victoire devient certaine et Monnet réfléchit à la reconstruction. À Alger, dans le cadre du Comité français de libération nationale, futur gouvernement provisoire de la France, Monnet convainc De Gaulle de l'absolue nécessité de planifier la reconstruction. Il devient en janvier 1946 et jusqu'en 1952 le premier commissaire général au plan.
Mais toujours pas de dimension européenne dans sa réflexion ?
Ah si, Yann, elle est présente, comme l'atteste en août 1943 sa déclaration devant le Comité de libération, j'ouvre les guillemets. Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale. Les pays d'Europe sont trop étroits pour assurer à leur peuple la prospérité et les développements sociaux indispensables. Cela suppose que les États se forment en une fédération ou une entité européenne qui en fasse une unité économique commune. Mais cette dimension européenne ne prend corps qu'en 1949, quand les difficultés de redressement et les relations tendues avec la République fédérale d'Allemagne, créée en mai, poussent Monnet et son équipe à élaborer en secret un projet de paix fondé sur la coopération à égalité de la France et de l'Allemagne. Le 9 mai 1950, le discours de Robert Schuman, devenu le plan Schuman, est adopté en juin par la France, l'Allemagne, l'Italie et les trois pays du Benelux. Moins d'un an plus tard, en avril 1951, il débouche sur la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont Monnet préside la haute autorité de 1952 à 1954. L'aventure européenne est lancée et Jean Monnet y participe presque jusqu'à sa mort en 1979. Avec des déceptions, en 1954, l'échec de la Communauté européenne de défense, avec des satisfactions, en 1957, l'Euratom, projet de coopération nucléaire civile, et à un degré moindre, le marché commun, trop peu supranational à son goût. Jusqu'à son retrait de la vie publique, en 1975, il anime le comité d'action pour les États-Unis d'Europe qu'il préside durant 20 ans. Monnet, autodidacte rabâcheur, entre guillemets, obstiné au service de la paix et donc de l'intégration européenne, décède en 1979. Ses cendres sont transférées au Panthéon en 1988.